Pasquale, vous nous parlez des ordinateurs quantiques, notamment parce qu'il y a quelques jours, Amazon lançait un campus dédié au développement d'un ordinateur quantique. Tout le monde espère en cette technologie. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit.
Eh bien, ça, c'est simplement de réussir à faire des calculs, mais de façon différente qu'un ordinateur classique. Alors un ordinateur classique, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il travaille sur des nombres. Il additionne, il fait des multiplications, etc. Mais il ne peut le faire qu'un nombre à la fois. C'est-à-dire que vous avez beau être capable de calculer des nombres, eh bien, si vous avez, par exemple, à traiter 1 million de nombres, eh bien, vous les traitez un après l'autre, et donc vous devez faire 1 million d'opérations pour traiter ce million de nombres. Et c'est très important, parce que, par exemple, dans la météo, vous devez calculer le temps qu'il fera demain, et vous devez prendre en considération des milliers de paramètres, voire des millions de paramètres, les pressions atmosphériques, les vitesses de vent, les températures, et donc vous devez passer en revue 1 million de situations. De même, par exemple, si vous voulez décider si un nombre est premier ou pas, eh bien vous devez diviser ce nombre par tous les nombres qui le précèdent pour voir si oui ou non ce nombre est un nombre premier.
Ça veut dire que la vitesse des ordinateurs aujourd'hui, elle est limitée et qu'elle sera toujours un peu limitée, c'est ça?
C'est-à-dire que la vitesse des ordinateurs permet de faire beaucoup de calculs, mais quand même un à la fois. Oui. Et donc on est obligé d'augmenter la vitesse des ordinateurs de telle façon à pouvoir, par exemple, faire 1 million de calculs en 1 seconde. Mais vous êtes quand même obligé de passer tous les nombres en revue. Et c'est pas le cas avec la mécanique quantique. Et c'est amusant parce que Amazon a installé son centre à Caltech, à Pasadena, qui est l'université dans laquelle travaillait Richard Feynman, enseignait Richard Feynman, et c'est lui le tout premier, dans les années 60, qui a pensé à l'idée d'utiliser la mécanique quantique pour pouvoir faire des calculs. Évidemment, à l'époque, c'était rien qu'un rêve, une hypothèse de travail.
Bon, alors, rappelez-nous quand même ce que c'est que la mécanique quantique.
La mécanique quantique, c'est simplement la physique qui décrit le monde atomique. Et cette physique-là, elle est tout à fait différente de la physique classique. C'est pour ça que, d'un côté, on l'appelle mécanique quantique parce qu'il y a absorption et émission d'énergie par petits paquets, d'où le mot quantique, quantum, petit morceau de... L'intérêt de la mécanique quantique, c'est qu'elle donne une vision très étonnante de la nature. Un atome, par exemple, eh bien, peut être dans telle situation ou dans telle autre situation. Ça a été métaphorisé dans le fameux chat de Schrödinger. Il est soit vivant, soit mort, c'est ce que nous croyons. Mais dans le monde de la mécanique quantique, c'est pas comme ça. Il est la superposition des deux. Il est à la fois vivant et à la fois mort. Et c'est quand vous l'observez que vous trouvez le chat soit vivant, soit mort. Ça, c'est le fameux qubit, c'est-à-dire un bit quantique. Il est dans les deux états à la fois. Supposons maintenant que vous mettez 3 de ces qubits, de ces bits quantiques. Eh bien, vous avez 8 possibilités. Dans un monde classique, eh bien, ces 8 nombres, vous les avez les uns après les autres. Dans un système quantique, vous avez les 8 nombres en même temps. C'est-à-dire que dès que vous travaillez dans le monde quantique, l'état de ce système, l'état de cet ordinateur, est une combinaison de l'ensemble des états possibles. Et donc si vous prenez par exemple l'ordinateur quantique travaillé par Google, où il a à peu près 53 qubits, bits quantiques, eh bien il est dans un état de millions, de milliards de possibilités en une seule étape. Et donc il est capable de calculer en parallèle sur des milliards de possibilités en un seul coup.
D'accord, ça veut dire donc que ce n'est pas une théorie, ça existe déjà un peu.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc Google a son propre ordinateur quantique qui s'appelle Sycamore, IBM a son Q System One qui contient 20 qubits, et la Chine utilise aussi cela, les Américains en tant que recherche militaire aussi, donc ça existe. La seule chose qu'on ne sait pas encore, c'est quelle est la meilleure technologie. Par exemple, Google utilise les supraconducteurs, tandis que IBM va utiliser, Microsoft par exemple, dans sa start-up qui s'appelle IonQ, va utiliser des atomes isolés, les Chinois utilisent de la lumière. Bref, on n'est pas encore très sûr de quelle est la meilleure technologie à utiliser pour fabriquer ces ordinateurs quantiques. Mais ils fonctionnent actuellement. Et donc ça permet de faire des milliards de calculs en parallèle.
Et est-ce que ce sera vraiment utile? Ou est-ce qu'on est dans le développement d'un truc pour la beauté du geste parce que les scientifiques aiment bien? Ou est-ce que quand même on se dit que ça pourra vraiment servir des choses?
Ah bien sûr, ça sert, parce que par exemple, ça a été publié dans Nature en 2019, où on a montré avec l'ordinateur de Google, l'ordinateur quantique de Google, qu'en 200 secondes, ils ont fait 1 million de mesures qui normalement, sur un ordinateur classique, auraient pris 10 000 ans. Et donc, on peut accélérer le processus de calcul grâce à ces ordinateurs quantiques. Par exemple, si vous devez tester une nouvelle protéine, vous devez calculer toutes les configurations des atomes, ça prend un temps de dingue. Si vous pouvez utiliser un ordinateur quantique, il calcule toutes les configurations en un seul coup. Et donc ça permet d'accélérer le processus de calcul.
Est-ce qu'il y a des risques?
Oui, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a dans ces calculs quantiques une erreur sur à peu près 1000 opérations. Tandis que sur un ordinateur normal, c'est une erreur sur des milliards de milliards d'opérations. Donc, il faut améliorer la stabilité de ces ordinateurs quantiques. Certains ordinateurs quantiques, comme celui de Google, travaillent à très 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 basse température, presque au-dessus du 0 Kelvin. Et donc ça, ce n'est pas confortable, pas pratique. Les Chinois ont opté pour la vision optique, pour l'utilisation des photons, de la lumière, et là, ça travaille à température normale. Donc tout le monde, actuellement, recherche quelle est la meilleure technologie qui permet d'avoir le moins d'erreurs et la plus grande fiabilité, la plus grande praticabilité, en quelque sorte, de ces machines.
Et l'idée, c'est de les vendre après, ou plutôt de les utiliser seulement peut-être pour la défense ou ce genre?
Non, ça s'est déjà vendu, c'est-à-dire qu'il y a une société qui s'appelle D-Wave, par exemple, au Canada, et qui propose effectivement sa machine quantique pour l'utilisation de très gros calculs. Et l'exemple le plus classique de gros calculs, c'est le calcul de la météo au niveau mondial, c'est-à-dire au niveau terrestre, donc les modèles atmosphériques.
Eh bien, merci beaucoup, Pasquale Nardini.